Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel? Prise de poids rapide? Pieds et chevilles gonflés? Fatigue excessive? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
Bonjour, je suis Laurence de Carglass. On fait quoi en cas d'impact sur son pare-brise? On appelle Carglass au 3044. Et si on a deux impacts, c'est toujours Carglass au 3044. C'est simple. Une urgence sur votre pare-brise? Allô Carglass au 3044. Et pour prendre rendez-vous rapidement chez Carglass, c'est le 3044. Et l'appel est gratuit.
Carglass répare, Carglass remplace.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, les forfaits mobiles, ça me donne l'impression de passer à la mairie. Tous ces gigas jusqu'à ce que la mort nous sépare, merci bien.
Dis calme, on a la solution. En ce moment, chez Leclerc, le forfait réglo mobile avec 130 gigas et les appels SMS, MMS illimités est à 9,50€ par mois. Et c'est sans engagement.
Sans engagement? Juré?
Mais oui. Le meilleur prix, c'est celui qu'on choisit. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc, conditions de l'offre consultable en magasin et sur réglomobile.fr.
Bien, j'ai parcouru votre CV, c'est très impressionnant. 12 ans d'expérience dans de grands groupes, comme dans une PME. Vous êtes expert en comptabilité, marketing, sécurité informatique, ressources humaines. Vous parlez anglais, chinois, hindi. Vous pouvez commencer quand?
Désolé, le mouton à cinq pattes n'existe pas. Mais heureusement, sur APEC.fr, vous trouverez des solutions et de l'aide pour recruter le candidat qui correspond à votre TPE-PME. Rendez-vous sur APEC.fr, c'est gratuit.
APEC, donnez de l'élan à votre avenir.
À tous ceux qui en ont marre qu'on leur parle de pouvoir d'achat. C'est vrai, il y a mieux comme pouvoir, comme être invisible. Vous me voyez là? Eh ben non, vous me voyez pas, je suis dans la radio. Parce que le pouvoir d'achat, c'est quand même bien. Intermarché s'engage et vous propose le produit le moins cher de France. Les poires Williams demi-fruits au sirop léger Paquito sont à seulement 1,81€. Et c'est aussi au drive et en livraison.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 5 mai, 455 grammes, soit 3,98€ le kilo. Poire française sur la base d'un relevé en date du 29 avril. Voir méthodologie sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Il est 11h02, le carillon d'Europe 1 avec Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Et bonjour Pascal, bonjour à tous. Mathilde Panot dénonce un abus de pouvoir intolérable. Le gouvernement français ne nous fera pas taire, assure de son côté Rima Hassan. Les deux insoumises sont entendues par la police pour apologie du terrorisme. En cause, un communiqué de leur groupe parlementaire publié le 7 octobre, le jour de l'attaque terroriste du Hamas. Les insoumis qui qualifient aussi de génocide la situation à Gaza. Plusieurs élus se sont d'ailleurs rendus vendredi dernier à Sciences Po Paris pour soutenir les étudiants pro-palestiniens qui bloquaient le campus. Inacceptable pour Sébastien Chenu, vice-président du RN à l'Assemblée. Il était ce matin l'invité de la grande interview Europe 1 CNews.
Ça fait des semaines qu'on a vu le braquage de LFI, que LFI a fait de Sciences Po. Braquage salué par les autorités religieuses iraniennes, les ayatollahs iraniens, trouvaient ça très bien. Vous me direz, entre ayatollah de LFI et ayatollah iranien, on se comprend probablement. Bah, ce sont des gens qui aujourd'hui considèrent qu'Israël doit disparaître. C'est ce que dit Madame Hassan, en réalité. Alors, elle l'assume pas tout à fait, parce que elle a des propos sur les réseaux sociaux, puis quand elle est devant vous, ou devant l'un de vos confrères, elle explique que tout va très bien, qu'elle aime tout le monde, etc. La réalité, c'est que c'est une militante pro-palestinienne, anti-sioniste et qui manipule tous les codes de l'antisémitisme.
Sébastien Chenu au micro de Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1 CNews. Notez que la région Île-de-France a annoncé hier la suspension des financements de Sciences Po Paris. L'État ne coupera pas sa subvention, assure aujourd'hui la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, financement évalué à 75 millions d'euros. L'enquête administrative n'a pas relevé de négligence de la part du collège où était scolarisée Samara. C'est ce qu'assure la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet. Samara, c'est cette jeune fille de 13 ans, violemment agressée devant son collège de Montpellier en début de mois par plusieurs élèves.
Pas de négligence. Pas de négligence. C'est-à-dire que Samara a été tabassée devant, à 10 mètres de son lycée. Elle expliquait que sa mère expliquait que elle avait appelé le collège avant, et l'enquête dit qu'il n'y a pas d'administrative. Exactement. Ça s'appelle pas se couvrir, ça, peut-être? Je ne sais pas, hein, je pose la question, mais c'est, je trouve que ça fait partie des informations effectivement qui peuvent nous étonner après les témoignages que nous avons eus. C'est-à-dire qu'il y a une jeune femme qui est tabassée devant l'établissement à 10 mètres, sa mère a prévenu l'établissement, une enquête administrative dit « personne n'est coupable ». Tout va bien. Excusez-moi de vous avoir coupé, chère Émilie.
Donc vous le disiez, Samara, c'est cette jeune fille de 13 ans qui a été violemment agressée.
C'est vrai que moi, ça me fait réagir. Mais j'ai l'impression parfois qu'il n'y a que moi qui réagis comme ça. Dans, et qui suis tellement en colère, mais je trouve ça invraisemblable. Je vous laisse, évidemment, Émilie, puisque je rappelle que vous n'êtes pas faite pour commenter l'actualité.
Non, je donne les faits, simplement
exactement,
les faits.
Vous avez, que il m'arrive parfois de donner mon avis, de temps en temps. De temps en temps.
Ah bon?
Mais écoutez, vraiment, je pense que les auditeurs, ils réagissent comme nous, d'ailleurs. Ils réagissent comme nous, c'est quand même invraisemblable. Personne n'est jamais coupable. Allez-y.
Donc je rappelle que Samara, c'est cette jeune fille de 13 ans qui a été violemment agressée devant son collège de Montpellier en début de mois par plusieurs élèves. Sa mère avait mis en cause, vous le disiez, le manque de réactivité de l'établissement, ce qui avait provoqué une grève des enseignants. L'activité économique de la France a progressé de 0,2% au premier trimestre. Des chiffres publiés ce matin par l'INSEE qui défient tous les pronostics. Une très légère hausse portée par la consommation des ménages. Le gouvernement y voit un signe de la solidité de l'économie du pays. Les écrans sont dangereux pour les enfants. Un rapport préconise de les interdire pour les moins de 3 ans. Interdiction des smartphones aussi pour les moins de 13 ans. Un rapport qui vise à guider les parents et non à imposer des contraintes par la loi. Et puis le Bayern de Munich reçoit le Real Madrid ce soir. Première demi-finale aller de la Ligue des Champions. Coup d'envoi de la rencontre à 21h. Demain, le PSG ira à Dortmund.
J'ai une question essentielle à vous poser.
Dites-moi.
Et je vais la poser à tout le monde et à tous les auditeurs. Est-ce qu'on dit Montpellier? Moi, j'ai toujours dit Montpellier. Ou Montpellier.
Moi, je dis Montpellier.
Mais moi, je dis Montpellier. Mais vous dites pas une pelle, vous dites une pelle. Donc, deux L, théoriquement, on devrait dire Montpellier. Par exemple, Claire Chazal disait toujours Montpellier. Montpellier. Et moi, j'ai toujours dit Montpellier. Et c'est une question que je
c'est
pose.
De phonétique,
alors,
c'est
je vais pas poser cette question à M. Boubou.
C'est une super séquence, alors là. Quel début d'émission.
Mais c'est essentiel.
Ah oui, non, mais alors, appelez-nous pour réagir, là.
Mais écoutez,
le standard va exploser.
Comment dire, je demande aux gens de Montpellier ou de Montpellier.
C'est très clivant comme sujet, non, ça va cartonner. Bravo.
C'est peut-être une règle phonétique.
Bon, il y a quelqu'un qui m'appelle parce que
est-ce qu'on dit pain au chocolat ou chocolatine, du coup?
Ah non, mais ça, c'est encore autre chose. Ça, la chocolatine ou le pain au chocolat, c'est encore autre chose. Mais théoriquement, on devrait dire Montpellier. Ah, on dit une pelle.
Oh, vous avez raison de vous soulever comme ça.
Il y a après le L, donc peut-être c'est Montpellier et pelle, vu que c'est un E, c'est pelle,
deux L. L,
E. Oui,
il y a deux L pour mieux voler.
C'est que je voyais les pronostics de Thierry Léger.
Thierry Léger. Est-ce vous l'avez prévenu, Thierry Léger, qu'on va l'appeler ou pas, monsieur Fabrice Lafitte, à qui je dis bonjour?
Bonjour, non, je l'ai pas prévenu, on va lui faire la surprise.
D'accord, vous êtes habillé en Raël aujourd'hui.
Non, non, pas en Raël.
Vous êtes habillé en costume de Raël. Comment?
C'est très délicat, ça, Raël.
Vous avez cette costume de Raël, vous êtes tout en blanc.
Ah oui, je suis en blanc.
Bon.
Alors, les pronostics de Thierry Léger pour le quintet de cet après-midi à Fontainebleau. Il vous conseille de jouer le 12, le 15, le 10, le 13, le 3, le 16, le 4 et le 9. Pronostic à retrouver sur Europe 1.
Ce que je disais hier, le numéro le plus important, c'est le 16.
Non, vous disiez le 8 hier.
Oui, non, le plus important, le plus haut dans la numérotation, c'est le 16. Il n'y a jamais, il n'y a pas 70 petits shows, comme je vous le disais.
Début d'émission intellectuelle.
C'est le test le plus long de l'histoire.
Ça vous dirait pas d'envoyer la virgule, Pascal? Pascal Pro? Pascal.
Oui, la virgule.
Non, mais non, c'est pas possible.
Je lance Europe 1.
Europe 1, il est 11h08.
Europe 1, 11h, 13h. Pascal Pro et vous.
Il est 11h08, je salue évidemment Géraldine Hamon qui est
Pascal.
Là. Pourquoi vous souriez?
Vous faites des mini-siestes. On est à l'antenne.
Mais non, mais pourquoi je ne fais pas des mini-siestes? Pourquoi?
Non, mais vous deviez envoyer la virgule, etc. Il ne se passe rien. Enfin, c'est incroyable, ça.
Bonjour,
bonjour
Olivier
à tous.
Guinec, je trouve que vraiment, d'abord, les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'envoyer la virgule. Essayer de penser aux auditeurs.
Bah, renvoyez-la pour qu'on comprenne ce que c'est.
Non, voilà. Un jingle, on dit.
Oui, un jingle.
Je salue Fabrice Lafitte d'Israël.
Bonjour.
Qui a aujourd'hui son costume tout blanc. Et je salue, bien sûr, monsieur Olivier, monsieur Laurent Tessier.
Vous m'avez confondu avec monsieur Boubouk.
Monsieur Laurent.
Mais il y a une différence capillaire entre nous. Hein.
Et
il est fou.
Et je salue également, parce que je sais qu'elle nous écoute, Claire et Léa, qui sont revenus
Dublin.
Non, ça bon, c'est pas bien.
La remarque de Léa Salamé.
Et n'oublions pas Florian, pardon.
Et Florian Carrasco.
Bah oui,
on
oublie.
Mais il était caché.
Vous m'oubliez, Pascal.
Mais non, il était caché. Vous étiez petit. C'est pour ça que vous étiez dans un coin du studio. Mais il est toujours caché aussi, Florian. Pourquoi vous cachez?
Parce que je travaille.
Ah oui, parce que les autres, ils ne travaillent pas, là.
Non, bah non.
Bon, la remarque de Léa Salamé à l'humoriste Artus, qui se félicitait d'avoir arrêté de boire et de fumer pour gérer ses angoisses. Et samedi soir, dans l'émission Quelle époque sur France 2, la présentatrice lui a lancé « Vous êtes devenu chiant ». Une séquence qui fait fortement réagir sur les réseaux sociaux. Artus avait répondu que ce genre de remarque était très française et bien de ne pas boire d'alcool, forcément. Si j'avais dit que j'arrêtais la coke, tout le monde m'aurait dit « bravo ». Alors, vous avez peut-être arrêté de boire vous-même, vous avez décidé de boire très rarement, vous prenez régulièrement des remarques en soirée du style t'es pas drôle. Écoutez ce qu'a dit Léa Salamé à Artus.
C'est quoi votre petit truc en plus pour vous blinder contre les angoisses? Parce que vous dites que vous êtes un très très gros angoissé.
Ouais, eh ben alors j'ai fait plein de petits trucs en plus et ça va beaucoup mieux. J'ai
c'est
arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer.
Ah, vous êtes devenu chiant. Non mais je veux dire, vous êtes plus angoissé mais vous êtes chiant.
Oui, c'est très français ça, de dire. C'est marrant parce que dès qu'on dit qu'on arrête de boire, on devient chiant. Alors que putain, c'est bien en fait de pas boire de l'alcool forcément.
Oh là là,
bien
sûr. Donc.
Mais quoi, je vous emmerde. Enfin, mais c'est quoi ce truc-là? Si j'avais dit j'ai arrêté la coke, tout le monde m'aurait dit putain, bravo. Ah bravo, c'est cool, t'as arrêté la coke.
C'est vrai,
ah, génial.
C'est vrai.
En France, tu dis t'arrêtes de boire.
Je trouve moi, vraiment cette société, j'ai vraiment du mal. En fait, elle joue, Léa. Elle joue au second degré, elle s'amuse, elle ne dit pas comme moi je peux le faire plein de fois quand tu interviews ou quand tu interroges quelqu'un. Et vous avez déjà Artus qui le prend au premier degré, et vous avez en plus le public qui le prend au premier degré, donc ça devient insupportable. Au lieu de rire de tout ça, on arrive sur une discussion moraliste sur l'alcool et tout ça. C'est pas du tout ça, c'est pas l'enjeu. Alors écoutez, Bernard Basset, il est président de l'association Addiction France, il était interrogé par Laurent Tessier qui était à jeun.
J'ai surtout été très surpris parce que c'est quand même une journaliste intelligente qui fait une réflexion qui est complètement décalée et complètement hors du temps. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une évolution importante du rapport à l'alcool dans notre société. J'en veux pour preuve le succès du défi de janvier qui a rassemblé quand même 5 millions de personnes. Peu ou prou ont arrêté de boire pendant une période, pendant ce mois-là.
Vous vous rendez compte que ce monsieur fait le procès à l'intelligence de Léa Salamé qui a simplement dit une remarque sans doute de second degré. De dire « vous êtes devenu chiant », mais je le répète, si tu prends le second degré au premier, évidemment tu ne peux plus rien dire. C'est terrible. Et alors, très sérieux, je me suis dit, il n'aurait pas dû dire ça, etc. Mais en fait, c'est des moralistes. Jean-Pierre Couteron, il est addictologue, interrogé par Laurent Tessier. Ils nous font la leçon matin, midi et soir. Moi, je déteste qu'on me fasse la leçon dans aucun domaine.
Une partie des gens que l'on côtoie ne supporte pas cette démarche, ce qu'on appelle la pression sociale. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'obligation à boire qui nous est faite. Et cette obligation à boire, elle passe par le fait que si on ne buvait pas, on serait triste, on serait chiant. C'est faux, on peut s'amuser, on peut être un bon vivant sans obligatoirement s'alcooliser.
Enfin, personne, je n'ai pas le sentiment non plus que des gens obligent à boire les autres. Vous avez ce sentiment? En fait, j'ai l'impression qu'on dit n'importe quoi dans tous les domaines, mais je peux me tromper. Vous avez ce sentiment que vous buvez peut-être quand vous sortez, Olivier?
Oui, un petit peu,
bon,
pourquoi?
Il y a des gens qui boivent pas autour de vous?
Pas dans mon groupe d'amis, non. Non, mais ne m'interrogez pas là-dessus, s'il vous plaît.
Mais vous diriez aux gens, bois, quelqu'un boit de l'eau.
Non, surtout pas.
Vraiment, c'est cette société devient compliquée. Christophe, qui est DJ. Bonjour Christophe. Il est avec nous, Christophe?
Bonjour Pascal, vous m'entendez bien?
Ça va bien. Vous allez pouvoir intervenir juste après la pause, puisque on va prendre... vous savez qu'à cette heure-là... Alors, c'était pas à cette heure-là d'ailleurs, c'était André Arnaud, c'était un peu plus tard. André Arnaud, paix à son âme, il faisait le journal avec, paraît-il, une petite goutte de whisky. Et quand je dis une petite goutte, c'était peut-être pas une petite goutte.
C'est la goutte de Géraldine,
une belle
quoi.
Goutte, oui. Et André Arnaud, bon appétit, bonjour. Il parlait un peu comme ça. Il était une voix très célèbre d'Europe 1. Il parlait de la page en couleur pour la page de publicité. Et maintenant, une page en couleur. c'est celle qui va partir à l'instant. Mais à l'époque, il ne s'agit pas évidemment de boire et de se mettre torchon-serviette, je ne sais pas comment ça s'appelait, le sketch des inconnus, de se mettre vraiment sous la table, mais on peut boire un petit verre de vin simplement pour le plaisir, comme disait Herbert Daël.
Aujourd'hui, on dit être rapta, ça se dit comme ça aujourd'hui.
Être rapta.
Oui, je suis rapta. Voilà.
Et c'est ce qu'on dit à Dublin, j'imagine, mais ici à Paris. Il est 11h, vous allez retrouver le petit sketch des inconnus lorsqu'ils arrivaient le lendemain et qu'ils avaient trop bu la veille. À tout de suite.
Et pour réagir avec Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1, vous composez ce numéro.
Appelez Pascal Praud au 01 80 20 39 21. Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel, prise de poids rapide, pieds et chevilles gonflés, fatigue excessive. Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
Bonjour, je suis Laurence de Carglass. On fait quoi en cas d'impact sur son pare-brise? On appelle Carglass au 3044. Et si on a deux impacts, c'est toujours Carglass au 3044. C'est simple. Une urgence sur votre pare-brise? Allô Carglass au 3044. Et pour prendre rendez-vous rapidement chez Carglass, c'est le 3044. Et l'appel est gratuit.
Carglass répare, Carglass remplace.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, les forfaits mobiles, ça me donne l'impression de passer à la mairie. Tous ces gigas jusqu'à ce que la mort nous sépare. Merci bien.
Dis calme, on a la solution. En ce moment, chez Leclerc, le forfait réglo mobile avec 130 gigas et les appels SMS, MMS illimités est à 9,50€ par mois. Et c'est sans engagement.
Sans engagement? Juré?
Mais oui. Le meilleur prix, c'est celui qu'on choisit. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc, conditions de l'offre consultable en magasin et sur réglomobile.fr.
Hey, trop de boulot. Tu sais si on a une bonne couverture dans cette boîte?
Ah oui, ici on a le top de la couverture, hein, en lin, en coton et même en marbre. C'est classe, mais c'est un peu froid.
Attendre des siècles une bonne couverture santé pour vos salariés, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, vos collaborateurs bénéficient d'une couverture santé adaptée à leur secteur d'activité et ses obligations et ont accès à des ateliers de prévention sur mesure. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Souscription, informations et conditions sur aesio.fr ou auprès de nos conseillers.
À tous ceux qui appellent un étendoir. À ceux qui disent étendage, pourquoi pas. Et à ceux qui disent séchoir, étang à linge ou pendoir. Attends, je dis comment, moi? Intermarché rembourse 50% de vos achats sur tout le rayon lessive en deux bons d'achat. Et chaque semaine, profitez d'un nouveau rayon 50% remboursé en bon d'achat.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 5 mai, des 20€ jusqu'à 30€ d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Europe 1.
Pascal Praud et vous.
Salut Francis, ça mousse. Oh putain, je suis torse chiffon carpet. Ouais. Elle est où la chaise?
Elle est là.
Oh, j'ai la tête en sky, les cheveux qui poussent à l'intérieur.
Vous avez reconnu évidemment le sketch des inconnus, torchon, chiffon, carpette. Bonjour Christophe, bonjour. Vous êtes donc un DJ privé. Vous n'êtes pas dans une discothèque.
Ah, j'ai écumé beaucoup de clubs. Bonjour Pascal et bonjour à l'équipe. J'ai écumé beaucoup de clubs et de discothèques pendant plus de 30 ans. Ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Mais tu bois. Dis donc, t'es DJ, tu bois pas. Mais comment c'est un truc de dingue. Mais voilà. Ça m'agace cette affaire parce que j'entendais encore il y a quelques mois, ah ouais, mais il est capitaine de soirée, de temps en temps on change parce que comme il est capitaine de soirée, il s'amuse pas. Non mais c'est agaçant cette culture de l'alcool. Alors oui, boire socialement, d'accord, un petit mojito, un petit truc de temps en temps, mais je pousserai mon raisonnement plus loin, Pascal. On est quand même un des pays les plus assistés au monde. Et paradoxalement, on est quand même le pays qui se shoote à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on est quand même des recordman au niveau de consommation d'alcool, des recordman. Bon, je vais pas sortir des débats, mais le neuroleptique, etc., etc. Et si effectivement on n'est pas dans ce monde-là, oh, c'est bizarre, quoi. Enfin, c'est le monde à l'envers.
Vous avez quel âge, Christophe?
J'ai 60 ans, bien bon, que j'en fasse 50 de moins, 10 de moins, parce que.
Oui, si vous en faites 50 de moins,
je fais attention à.
Alors, bon, d'abord, vous avez raison. Et je trouve que vous avez raison, et vous avez raison de vous entretenir, et vous avez raison. Je pense, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est comme on a le même âge, moi, je m'aperçois qu'on boit beaucoup moins qu'il y a 40 ans. Quand je suis entré, souvent j'ai cité cet exemple, quand je suis entré dans la vie professionnelle, j'avais 21-22 ans. Moi, je venais d'une famille où on buvait très très peu. On ne buvait pas le midi, par exemple. Mes parents ne buvaient jamais le midi, pas de vin. Hein. Bon, j'ai découvert dans le milieu professionnel, en 87-88, je partais avec un journaliste reporter d'image, avec un preneur de son, avec un électro. Tous les jours, à cette époque-là, les gens déjeunaient plutôt copieusement et buvaient du vin. Aujourd'hui, vous entrez dans un restaurant, il n'y a plus une personne qui boit du vin le midi. C'est très rare. Qui peut boire un verre, mais je vous assure, c'est très rare. Donc, la consommation du vin a fortement baissé. Ce qui est vrai, c'est que le soir, elle existe encore. Mais ce qui a changé, me semble-t-il, c'est que les jeunes boivent parfois plus ponctuellement.
Et beaucoup.
Exactement.
Du binge drinking.
Voilà, c'est voilà, ce que c'est je cherchais ça. Le exactement. Terme. Mmh. Répétez-le.
Binge drinking.
Drinking. Ouais. Et ouais, notamment le les filles. Ouais. Et notamment les filles qui, de mon temps, si j'ose dire, buvaient très peu. Culturellement, les filles buvaient moins que les garçons. Aujourd'hui, je ne sors pas avec des jeunes, hein, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais j'ai l'impression que ça s'est rééquilibré. Puis il y a beaucoup de gens qui ne boivent pas, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a cette culture que vous dites et que dit également M. Coutron, M. Basset, qu'on a entendu, qu'on vous culpabilise ou qu'on explique que vous n'êtes pas drôle parce que vous ne buvez pas. Je n'ai pas ce sentiment qu'il y ait une pression de ce type.
Peut-être, vous avez raison, quand c'est vrai que je lisais que je ne sais plus jusqu'à quelle époque ils autorisaient le vin à l'école ou à
dans 55,
les cantines.
C'est Mendès France. Voilà. On a enlevé le vin en 55 ou 56 de la cantine. C'est-à-dire que c'était possible pour les gosses de boire de la cantine. Pendant la guerre de 14, on a donné à tous les soldats des 4 ou 5 litres de vin par jour. Ce qui fait que quand ils sont revenus à la maison, ils étaient tous alcooliques, ou beaucoup l'étaient, et ça a créé dans les familles des dommages importants. On buvait infiniment plus à l'époque. Alors on mourait plus jeune, hein. À 60 ans, tu avais un AVC ou tu avais une maladie, parce que effectivement, tu prenais moins. Vous venez de dire que vous avez 60 ans, vous en faites 50. Ben, il y a 50 ans, il n'y avait pas de gens de 60 ans qui en paraissaient 50.
Ouais, c'est vrai. Je pense quand même, néanmoins, que vous parliez du binge drinking tout à l'heure, et c'est vrai. Je pense qu'il y a une modification, puis il y a surtout un mélange de cocktails avec des gens vont prendre de l'alcool avec une marque qui va exciter le cœur un peu trop fort. Il y a des choses qui, et puis toutes ces drogues qui sont qui tournent. Moi, je n'ai jamais pris aucune drogue dans ma vie. Je suis peut-être, mais effectivement.
Mais on est nombreux. Nombreux à avoir pris. Je pense que si on faisait un tour de table, je vois. Bon, il y a Monsieur Vidal Revel qui vient d'arriver dans la régie. Bon, je ne sais pas si lui-même a pris quelques drogues aux audiences, peut-être. Il se dope, mais parce qu'elles sont très puissantes en ce moment sur Europe 1. Elles sont dans le bon sens. Mais autrement, des gens qui ont, il y a moins de gens qui ont pris de la drogue en France, et tant mieux d'ailleurs, que de gens qui en ont pris.
Là où je vous rejoins, et c'est vrai, vous avez raison, aujourd'hui, effectivement, notamment au volant, on a des contrôles beaucoup plus poussés, donc on avance doucement, mais ce que je rebondis surtout sur, moi j'ai mon papa qui est parti prématurément, cause, moi je suis pas intolérant, parce que, mais je trouve que on veut une société au risque zéro, et quand même, on vous dit, oui, mais il faut plus manger les œufs en Île-de-France, parce qu'il y a des pesticides, il faut plus les poils, etc. Et par contre, je trouve quand même qu'on ne parle pas suffisamment.
De l'alcool.
Alors, il n'y a pas d'étiquette sur une bouteille.
Stéphane va être là. Stéphane va être là, mais vous voyez, pendant qu'on parle, je reçois un petit SMS de mon amoureuse qui me dit « Et quand tu me dis que je n'ai qu'un défaut, que je ne bois pas, bien sûr qu'il y a une pression sociale qui pousse à boire.
» Voilà. Bien répondu, madame. Bravo.
Mais franchement, d'abord, elle n'a pas de défaut du tout. Stéphane. Bonjour, Stéphane.
Bonjour Pascal.
Alors vous êtes un ancien alcoolique.
Oui.
Vous avez quel âge ?
J'ai 50 ans.
Et vous avez arrêté de boire à quel âge ?
J'ai arrêté, je me suis offert ce cadeau pour mes 40 ans.
Donc ça fait 10 ans que vous n'avez pas touché une goutte d'alcool ?
En réalité, ça fait 11 ans. Mais bon, je me le suis offert pour mes 40 ans. J'ai arrêté peu de temps après.
Et est-ce qu'on peut savoir la consommation qui était la vôtre quotidienne?
Je peux citer une marque.
Oui.
Je buvais environ entre 1 litre et 1 litre et demi d'une boisson anisée assez forte tous les soirs.
De Ricard?
Oui.
Alors, je vais citer aussi Pernod, qui est son concurrent.
Voilà.
Vous buviez 1 litre et demi tous les soirs de Ricard?
Oui.
Mais avant, le soir, vous aviez déjà commencé à boire?
Non, j'essayais d'avoir une tenue assez correcte en journée, pour ne pas que ça se voie.
Mais je suis toujours surpris de ça. En combien de temps vous buviez 1 litre et demi de Ricard?
Oh, les alcooliques sont des gens qui ont beaucoup de rituels. Donc, en fait, je passais ma soirée, j'allais me coucher vers 23h minuit. Et je commençais, il devait être à peu près 19h, 20h.
Mais vous étiez en couple ou vous étiez seul?
J'étais en couple.
Et votre femme, que disait-elle à l'époque lorsque vous serviez Ricard sur Ricard?
Elle m'a vu m'enfoncer doucement. Je lui ai plusieurs fois tendu la main pour avoir de l'aide, ce qu'elle m'a refusé, ce que je peux comprendre, parce que c'est quelque chose de dur à vivre pour l'entourage. Et donc je m'en suis sorti seul un jour avec des alcooliques anonymes.
Et quand vous vous couchiez à 23h, vous vous réveillez à quelle heure le lendemain?
Ah, le lendemain, à 6h, j'étais sur le pont.
Ben vous avez une belle santé déjà. Vous faisiez quoi comme métier à cette époque-là?
Je travaillais sur un plateau d'appel.
Sur un plateau d'appel? Et aujourd'hui, oui. Vous êtes toujours dans ce métier?
Non.
Vous avez changé de métier. Vous faites quoi aujourd'hui?
J'ai totalement changé. Alors là, aujourd'hui, je suis en invalidité parce que j'ai une maladie assez invalidante.
Ah, pardonnez-moi. Mais vous récupériez donc entre 23h et 6h du matin, en 7h, vous étiez sur le pont, comme vous dites, après 7h, après quand même un litre et demi. Oui. Hein, donc c'est-à-dire que tous les jours, la bouteille de Ricard, c'est un litre sans doute?
Oui, je prenais que des grosses bouteilles en un litre et demi.
D'accord. Et vous le diluiez avec de l'eau ou vous le buviez pur?
Très peu d'eau. Très peu d'eau.
Très peu d'eau.
Dans des grands verres de 25 centilitres.
Et comment cette addiction était-elle arrivée?
Bêtement. Un ami qui un jour est venu et m'a proposé un apéritif le midi, chose que je ne faisais pas. Et l'habitude s'est installée. Et l'apéritif du midi s'est transformé en apéritif du soir, avant le repas. Il s'est prolongé après le repas, et l'alcool est un produit sournois et insidieux.
Mais là, par exemple, si je vous propose un Ricard, vous n'allez pas le boire?
Ah non, je ne bois plus du tout, ça fait 11 ans que je suis abstinent. Ouais.
Bon, on va marquer une pause, parce que ces témoignages sont toujours très puissants, très forts, et puis c'est très difficile, en général dans la vie, c'est très difficile de comprendre celui qui a vécu une expérience qu'on n'a pas forcément vécue. Et c'est vrai que les témoignages des alcooliques anonymes, me surprennent toujours parce que cet engrenage, mais comme je ne l'ai pas vécu moi-même, forcément j'ai du mal à imaginer qu'on puisse comme ça tomber, se laisser tomber, et puis c'est...
Ça peut aller très vite, hein.
C'est la preuve. Donc on continuera dans une seconde avec Stéphane. Je remercie évidemment Christophe. Je préviens donc Olivier Guenec, écoutez avec attention Olivier.
Oui, oui, bien sûr que j'écoute Pascal.
Oui, mais vous n'êtes, si vous me permettez...
Non, mais, mais dites-moi, qu'est-ce qu'il y a?
Vous n'êtes pas loin parfois
Non, me dites pas n'importe quoi. Mais toute ma famille écoute.
De l'addiction. Voilà. Ah non, je parle pas du tout d'alcool.
Ah, vous parlez de quoi?
Non, aux réseaux sociaux, l'addiction aux réseaux sociaux.
Ah bien sûr.
C'est ce que je voulais dire, bien évidemment.
Arrêtez, je vais recevoir des appels.
Non, c'est pas vous qui êtes concerné par cela, c'est pas vous directement dans ce studio.
Vous regardez qui, là?
Je ne regarde personne. Il est 11h28, à tout de suite.
01 80 20 39 21 pour réagir avec Pascal Praud, de 11h à 13h, le numéro. Et non surtaxé, à tout de suite. Et belle fin de matinée sur Europe 1.
Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1,
rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Praud et vous. Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko.
Bon réveil avec Europe 1, au programme ce matin.
Bienvenue et bonjour Gérard Larcher.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Et merci de votre présence. C'est le son qui a marqué l'actualité cette nuit. Au moins 3 explosions comme celle-ci entendues dans le centre de l'Iran.
La question de l'autorité est posée depuis si longtemps qu'il est largement temps de passer des intentions aux actes.
Les faits, c'est quoi? C'est une jeune fille qui ment, qui dit qu'elle a été agressée, qu'elle a été violentée par un enseignant, donc clairement qui lui met une cible dans le dos.
La violence, la faute à qui? Aux parents, oui, débordés ou qui laissent faire.
2 387 000 à écouter Europe 1 tous les jours. Merci, encore merci de votre fidélité. À demain matin, 7h-9h sur Europe 1.
Carrefour. Quand vous me dites ronde, ferme, brillante et charnue, ça vous fait penser à... Eh bien, je vous réponds que les tomates grappes Origine France sont au prix le plus bas de 1,99€ le kilo seulement. Alors ?
Ah oui, aussi.
Et si vous trouvez moins cher ailleurs ? On vous rembourse 10 fois la différence. Et c'est jusqu'à jeudi chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, partenaire fruits et légumes de Paris 2024. Catégorie 1, détails sur carrefour.fr.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction de Paris Match.
Pour les 75 ans de Paris Match, nous vous proposons un numéro événement. Les 7 acteurs historiques du Splendide réunis pour un entretien et des photos exclusives. Un reportage exceptionnel avec les gueules cassées de l'armée ukrainienne et les tableaux de Notre-Dame de Paris entièrement restaurés.
Paris Match, numéro spécial anniversaire de 220 pages, en vente 3 semaines.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Hier, mon mari a rapporté du beau muguet de chez Leclerc.
Oh, ça c'est gentil. Ça vous a fait plaisir?
Bah, ça aurait pu. Sauf qu'en fait, il l'a offert à sa mère.
Aïe. Dites-lui de repasser en prendre un autre. Du 29 au 30 avril chez Leclerc, les 3 brins de muguet et une rose sont à 2,39€.
Ah bah, à ce prix-là, je vais m'en offrir à moi-même. Ce sera plus sûr.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Existe en différents coloris, voire détails en point de vente. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Europe 1, le journal permanent.
Il est 11h31, c'est Émilie Dez qui est là pour nous rappeler les titres.
La France insoumise parle de censure. La chef de file des députés LFI, Mathilde Panot, et la candidate LFI aux européennes, Rima Hassan, sont entendues dans les locaux de la police judiciaire pour apologie du terrorisme. Plusieurs centaines de personnes étaient présentes ce matin en guise de soutien. Une convocation liée à un communiqué du groupe LFI. Texte qui mettait notamment en parallèle l'attaque du 7 octobre et l'intensification de la politique d'occupation israélienne dans les territoires palestiniens. L'agression de Samara n'est pas liée à une négligence de son collège. C'est la conclusion de l'enquête administrative, enquête qui ne relève pas de situation de harcèlement scolaire. Samara, 13 ans, avait été tabassée devant son collège de Montpellier le 2 avril dernier. Sa mère avait mis en cause le manque de réactivité du collège. Au moins 3 personnes sont mortes cette nuit dans l'incendie d'un immeuble du 2e arrondissement de Paris, immeuble situé boulevard des Italiens en plein cœur de la capitale. Les victimes ont été retrouvés dans un appartement sous les combles du 7e étage. Une fuite de gaz est probablement à l'origine de l'incendie. Pas d'écran avant 3 ans, pas de portable avant 11 ans et de smartphone avant 13 ans. Ce sont les recommandations d'un rapport remis aujourd'hui à Emmanuel Macron. Rapport qui se veut un guide pour les parents et non une contrainte par la loi. Et puis, début ce soir des demi-finales aller de la Ligue des Champions. Le Bayern de Munich reçoit le Real Madrid à 21h. Demain, le PSG ira à Dortmund.
Il est 11h32.
Europe 1, Pascal Pro.
Avec vous de 11h à 13h sur Europe 1.
Stéphane est avec nous, il rappelle son parcours d'alcoolique et nous le faisons réagir parce que nous avons abordé ce thème de l'alcool après la remarque de Léa Salamé à l'humoriste Artus qui se félicitait d'avoir arrêté de boire et de fumer pour gérer ses angoisses. Léa a dit « Vous êtes devenu chiant, c'est du second degré, ça a été pris au premier degré. » Chacun condamne Léa qui va peut-être être obligée de s'excuser, tout ça n'a pas de sens. D'ailleurs, sur Europe 1, sur le site internet, on a demandé aux gens « Est-ce que vous êtes choqués ou pas ?» Et pour le moment, à 80%, les gens disaient « Oui, je suis choqué. » Moi, je ne suis pas choqué. Je ne suis pas choqué parce que c'est du second degré, précisément. Et que si on enlève la part du second degré, on ne peut plus rien dire. Mais bon, c'est autre chose. Et Stéphane nous dit une chose importante. Vous qui buviez 1,5 litre de Ricard par soir, et non pas de Pernod, qui est son principal concurrent, vous dites « Si je retouche une goutte
d'alcool, je retombe dedans. Ce qui nous étonne toujours, évidemment, nous qui ne sommes pas des alcooliques. Ça, c'est important de le dire, Stéphane.
Ah oui, absolument. C'est une maladie, on ne le dit pas assez. Je n'ai pas choisi cet état-là. J'aurais préféré pouvoir, comme tout le monde, boire un verre, deux verres et m'arrêter là. Simplement, mon cerveau ne fonctionne pas comme ça. L'alcool est un produit très sournois et vient s'immiscer dans les neurones au niveau des synapses. Et là, effectivement, on tombe dans l'addiction assez facilement. Il suffit en plus, quand on est un peu fragile, d'être dans un mauvais passage de sa vie et l'alcool vient s'installer et combler un vide. Après, concernant les propos de Léa Salamé, je ne les condamne pas. Enfin, il y a tellement plus grave aujourd'hui dans le monde. C'est juste que je trouve qu'on ne fait pas assez de prévention concernant ce produit. C'est une roulette russe. À chaque fois qu'un jeune prend un verre, c'est une roulette russe. On ne sait pas, si on prend une classe de 30 élèves, on sait en les regardant que dedans, il y a forcément un ou deux alcooliques. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de les prévenir dès tout jeune?
Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des dizaines et des dizaines de campagnes. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il y a eu des campagnes, mais très très fortes, très puissantes. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il y a de moins en moins d'alcooliques. Vous savez, jadis, dans les campagnes, dès l'âge de 10, 11, 12 ans, tu buvais. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Tu seras un homme, vous savez, on dit tu seras un homme en buvant. Tout ça, ça n'existe plus. C'est beaucoup plus... Et en plus, c'était du mauvais vin. Et je ne vous parle pas dans ce qui se passait dans les... Oui, vraiment, dans les campagnes, dans toute la population rurale. Il y a quand même beaucoup de campagnes de prévention. Vous ne trouvez pas?
Regardez sur les paquets de cigarettes, c'est marqué « Fumer peut tuer l'enfant que vous attendez ». Boire peut tuer les enfants que vous avez déjà.
Oui, bien sûr. Mais, et puis là, je vais vous dire, là où je suis moins aussi d'accord avec vous, mais moi, ça, c'est mon ADN, il y a un moment où les gens sont responsables. J'en ai marre, c'est pas à l'État de te prendre par la main. C'est ta vie, quand même. T'es un peu responsable de ce qui t'arrive. Tu sais que si tu bois beaucoup, ben, ça n'est pas très bien dans la vie. Donc, c'est aussi une question d'état d'esprit. Moi, je veux bien qu'on prenne les gens... On ne peut pas d'un côté dire... l'État infantilise trop, c'est ce qui s'est passé pendant le Covid, où gardez votre masque, dites bonjour à la dame, mangez ceci et ça. Et puis de l'autre côté, bah, expliquer qu'il n'en fait pas assez, qu'il faut qu'il en fasse plus.
Mais on peut quand même, ça n'empêche pas de l'alerter, encore une fois, sur les paquets de cigarettes, c'est fait.
Et vous voudriez mettre quoi sur une bouteille de vin, boire du vin tue?
Ah ben on pourrait mettre que ça détruit le foie, l'œsophage, que ça détruit l'estomac, que c'est effectivement que ça peut rendre violent, que ça peut rendre...
C'est vrai d'ailleurs.
Bien sûr.
Bah écoutez, tiens, en posons la question, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cette émission est faite pour échanger les points de vue. Posons la question à Monsieur Guénec, est-ce qu'il faut inscrire sur les bouteilles... boire-tu, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais boire-tu d'une certaine manière. Mais le problème, c'est que vivre-tu, c'est bien le souci. c'est-à-dire que la première...
C'est
cause
une sacrée vision de la vie.
C'est-à-dire que vieillir-tu.
Oui, bah ça, oui. Voilà. Vous parlez de qui, là? Non?
Tu peux mettre aussi sur une voiture, conduire-tu?
Oui. Bon, oui. Pascal, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je peux lire un petit message?
Je vous en prie.
Avant de changer de sujet.
Oui, on a... vous en prie, ce que je dis.
Non, pas du tout, si, pas du tout. Voilà, mais il y a un programme, monsieur, il y a un programme. Non. Alors, on a Greg qui nous
dernière
écrit...
chose quand même, est-ce que votre maladie, Stéphane, est due à l'alcool?
Non, du tout. Ça n'a absolument rien à voir. C'est quelque chose que j'ai depuis tout petit et qui, en fait, en vieillissant, est de pire en pire, tout simplement.
Bon, bah, j'espère que les choses. Alors, quand vous dites c'est de pire en pire, c'est-à-dire que on ne peut pas imaginer que ça aille mieux?
Non.
Bon.
Non, ça n'ira jamais mieux.
Bon, bah, écoutez, je crois comprendre à mot couvert ce dont vous souffrez, ou en tout cas le type de maladie dont vous souffrez. Et je vous souhaite bon courage dans ce qui doit être une épreuve, j'imagine, Stéphane.
Oui, merci beaucoup en tout cas.
Bah écoutez, ça serait bien d'ailleurs que vous nous appeliez, pourquoi pas régulièrement. Je ne sais pas si vous nous avez appelé au standard, et c'est bien de poursuivre parfois des discussions et d'avoir un suivi. Et puis si on peut vous aider, c'est assez bête à dire ce que je dis là, mais si on peut vous aider d'une manière ou d'une autre, eh bien...
Mais j'ai eu souvent l'occasion de vous rencontrer dans les rues de Nantes, et notamment proche du stade, j'habite en plus juste à côté.
Ben, j'y vais plus beaucoup. Hein. Là, vous n'avez pas dû me voir depuis longtemps. Hein.
Parce qu'à Nantes. Je ne vous ai pas croisé dans les rues de Nantes.
Il y a longtemps que je n'ai pas dîné avec la maire de Nantes. Il y a longtemps qu'elle ne m'a pas invité chez elle pour prendre un petit verre.
Ça va venir.
Vous savez qu'à Nantes, à Nantes maintenant, parce que je suis un peu dans l'Ouest, à Nantes, je ne viens plus que le 25 décembre. Vous voyez ? Et je repars généralement le 26. Donc comme ça, c'est.
Avec de belles décorations.
Bah oui. Ah oui, il n'y a même pas les décorations. Vous avez raison cette année. Mais quand j'arrive, la ville est plutôt tranquille. Vous habitez près du stade de la Beaujoire ?
Oui, juste à côté.
Il y a Nantes-Brest, hein, Brest-Nantes, ce samedi à 15h.
Oui.
Et grand match.
Belle affiche.
Bah oui, et Nantes a intérêt de gagner, hein, je vous le dis. Bon, Stéphane, faut, appelez-nous oui. quand même. Appelez-nous et puis on va essayer de garder le contact.
D'accord. Et bravo pour tout ce que vous faites, Pascal.
Eh ben, vous êtes gentil. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Guénèque.
Un petit message? Allez.
Bah, pourquoi un petit? Bah, un message? Pourquoi serait-il petit? Pourquoi ce message doit-il être petit,
ah
forcément?
Non, vous commencez
non,
pas.
Non, mais vraiment, c'est énervant, ça
passons
aussi.
Passons là aujourd'hui. Pas maintenant, monsieur. Non.
Message. Un grand message.
Eh ben
un message d'espoir, peut-être.
Ah, ça, c'est pas mal. J'aime bien ça. Message d'espoir. Oui.
Belle Hélène.
Ah, poire Bélène, je l'ai. J'en peux plus.
Message d'espoir, Belle Hélène. On pourrait écouter la Belle Hélène. La Belle Hélène d'Offenbach,
on pourrait écouter ça. Non, on va pas le faire, mon
pote. Le roi Babu, qui s'avance ce but, qui s'avance c'est ta
tu vas
gamme. Non, oui, c'est ta gamme, mais non. Je suis l'époux de la reine Pou, le roi Ménélas, le roi Ménélas. Vous ne connaissez pas ça.
Non, allez, c'est bon.
C'est la Belle Hélène de Jacques Offenbach.
Mais je me doute d'Offenbach.
Oui. Bon, d'ailleurs, on peut dire Offenbach aussi.
Offenbach. Très bien.
Pression.
J'en peux plus. Allez. On a Greg qui nous écrit sur notre grosse page Facebook.
C'est le chant des rois dans la Belle Hélène.
Si vous voulez pas que je dise des messages,
si,
vous me dites,
dites des messages. Non,
mais franchement, mais soyez clair.
L'espoir Belle Hélène. Mais
fini,
on a l'esprit d'escalier, d'espoir à Belle Hélène.
Je suis
on
pas
est passé à Belle.
Moi, vous savez, hein, je peux ne pas le faire. Hein.
Vous êtes déjà trop payé, à mon avis. Allez-y.
C'est gonflé venant de vous. Allez, Greg, nous écrit. Greg nous écrit. Non, Léa Salamé n'a pas été trop loin. On a très bien compris le trait d'humour, mais il y a une pensée commune, certes un peu malvenue d'un point de vue santé. Mais encore une fois, c'est surtout un trait d'humour. Voilà, Pascal.
11h41, monsieur.
11h. Pascal Pro sur Europe 1.
Ah, bah maintenant je suis au taquet. Hein.
C'est la mode, là, les jingles dans la figure.
Ça va bien aujourd'hui, Fabrice Lafitte?
Ah oui, ça va très bien. Je suis à mon 10e café.
Non, mais c'est un bon, tout va bien. Et vous avez trouvé le discours des rois dans la Belle Hélène ou pas?
Non, j'étais en train de chercher justement.
Eh ben, voilà. Alors, je pense que vous le trouverez demain matin.
Ça me revient. 1864 à Port Belle Hélène. C'est ça, non? Non? Ah, j'ai mal entendu ce qu'on m'a dit alors.
Non, la Belle Hélène, c'est de 1864, ah, peut-être, mais pas la Poire Belle Hélène.
Oh non!
La Belle Hélène, c'est l'opéra de Offenbach.
Ah, oh là là, mince.
Mais c'était. Alors, on écoute ça souvent à Noël, vous savez, mais dans le temps, on allait, là encore, on avait 12 ans, 13 ans, et on nous emmenait voir ces choses-là. On
Très
nous emmenait
bien.
Voir, il y avait l'opéra, puis l'opérette de temps en temps, ou l'opéra bouffe. C'est pas un opéra où on pouvait manger, hein, l'opéra bouffe, c'est autre chose.
D'accord. Et on n'emmène pas son pique-nique à l'opéra.
L'opéra pique-nique. Bon, allez, on va parler de Sciences Po. Et après la pause 11h, ou pas
13h.
Pascal Pro sur Europe 1.
C'est jingle party.
Moi, il me fait peur, c'est jingle party. Mais qu'est-ce que
c'est jingle?
Mais dites-moi, ça va ou
je suis payé au jingle maintenant.
Non, mais c'est les moufles.
Les moufles, oui.
Ah, vous savez que j'ai un titre.
Oui.
Champion du monde, moufle d'or depuis 2018. Et je tiens à le garder.
Ah, bon. Alors là on ne fait pas de pause.
Non, on est avec Jade.
On est avec Jade. Jade, bonjour. Jade. Jade, bon, bah, Jade,
coup, on va faire une pause. Hein.
Oui. On va faire une. Ah, Jade, ouais. Bonjour. Vous êtes à Sciences Po Paris?
Oui, tout à fait.
Ah ben, je reconnais votre voix. Vous nous avez appelé déjà plusieurs fois. Vous avez quel âge, Jade?
22 ans.
Vous êtes en quelle année?
En master 1.
Bon, hier, on était avec Pierre Alexandre, que vous avez peut-être écouté sur l'antenne, qui soulignait qu'à Sciences Po Paris. Il a envie de bosser, que c'est une minorité qui, entre guillemets, bordélise les amphis et que cette minorité empêche de travailler, milite alors que ce n'est pas forcément le lieu. Et cet étudiant était sur cette position. Quelle est la vôtre, Jade?
Ah bah je le rejoins à 100%. On est en pleine période de partiel pour certains qui ont commencé hier. Et on a vendredi, on pouvait plus accéder aux bibliothèques. Enfin, on avait des gens qui ont carrément bloqué le campus. Enfin, on arrive à un niveau où l'instrumentalisation de certains sujets du Moyen-Orient qui ne sont pas censés en arriver à ce stade-là à Sciences Po viennent perturber les cours.
Et quel est votre sentiment, quelle est votre réaction dans ces cas-là?
On a une administration qui fait un communiqué lunaire vendredi soir, qui revient à peu près sur ses déclarations aujourd'hui dans une interview au Monde. Une espèce d'instrumentalisation de la cause palestinienne par LFI, puisqu'on a vu que tout LFI s'est réuni devant Sciences Po vendredi. Un sentiment d'abandon aussi de la part des étudiants qui, je pense, sont majoritaires parce que finalement, ils étaient quoi? Allez, peut-être maximum 300, 500 devant Sciences Po, mais une promo, c'est bien plus que 500 élèves. Si on fait le calcul, je pense qu'il y a une énorme majorité d'étudiants qui ne peut pas s'exprimer parce qu'il y a une espèce de d'aseptisation du débat à Sciences Po.
Hein, oui, ils ont peur. Ils ont peur. Bon, on va en parler avec Yvonne Lecauze, qui est délégué national du syndicat étudiant UNI. UNI, ça veut dire quoi? Bonjour, monsieur Lecauze.
Bonjour, monsieur Pro. UNI, c'est Union nationale interuniversitaire. On est l'association étudiante de droite.
Ce qui est une particularité à l'université d'être syndicaliste de droite. Et puis on réécoutera Monsieur Chenu qui était ce matin avec Sonia Mabrouk. On pourra écouter également Sylvie Retailleau qui a pris la parole sur France 2 et elle est ministre de l'enseignement supérieur. Donc restez avec nous parce que c'est un sujet extrêmement important. Et puis on écoutera peut-être, pourquoi pas, avec un peu plus de légèreté, notre ami Jacques Offenbach. À tout de suite.
Et vous pouvez réagir de 11h à 13h avec Pascal Pro sur Europe 1 en composant ce numéro. Bonne matinée. Sur Europe 1.
Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21.
Ce mardi, jackpot Euromillions de près de 160 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous? FDJ, montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Alors, ça fait deux jours que je n'ai plus de dosette de café Senseo. Et du coup, je voudrais juste préciser un truc.
Oui, je vous écoute.
Il y en a certains qui disent que le café, ça énerve. Eh ben moi, je peux vous dire que le manque de café, ça énerve beaucoup plus.
Eh bien, passez vite nous voir, ça ira mieux. Et en plus, jusqu'au 4 mai, pendant l'opération Nos Super Pouvoirs d'achat, pour l'achat d'un paquet de 62 dosettes de café Senseo, le deuxième est à moins 60%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
Entre passé et présent, héritage culturel et création contemporaine, l'artiste Jiang Chong-er réinterprète les traditions chinoises millénaires au musée Guimet. Des installations monumentales et spectaculaires, une réflexion visionnaire sur le temps, un parcours sensoriel et spirituel comme un pont entre la France et la Chine. Gardien du temps à découvrir dès maintenant au musée Guimet avec Europe 1.
La Meute, c'est le nouveau thriller d'Olivier Ball. Des notables enterrés vivants, des réfugiés assassinés. Le cauchemar a un nom, La Meute. Un groupuscule terrifiant qui pourrait bien faire vaciller la société. Pour l'enquêtrice Sofia Giordano, une plongée glaçante dans la mécanique du fanatisme. La Meute d'Olivier Ball, un livre XO.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Merci de nous rejoindre. Il est bientôt midi moins 10. Pascal, prenez-vous la suite. C'est dans moins d'une minute. Le temps de vous rappeler que trois fois par semaine, tous les mardis, mercredis et jeudi, juste après les infos de 8h30 sur Europe 1, dans Europe 1 Matin, Gaspard Proust vous livre son regard très personnel sur l'actualité. Rendez-vous donc demain matin et en attendant, retrouvez Gaspard Proust en replay dès maintenant sur Europe1.fr et l'application Europe 1.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel? Prise de poids rapide? Pieds et chevilles gonflés? Fatigue excessive? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, les forfaits mobiles, ça me donne l'impression de passer à la mairie. Tous ces gigas jusqu'à ce que la mort nous sépare, merci bien.
Dis calme, on a la solution. En ce moment, chez Leclerc, le forfait réglo mobile avec 130 gigas et les appels SMS, MMS illimités est à 9,50€ par mois. Et c'est sans engagement.
Sans engagement? Juré?
Mais oui. Le meilleur prix, c'est celui qu'on choisit. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc, conditions de l'offre consultable en magasin et sur réglomobile.fr.
Europe 1.
Pascal Pro Yves. De 11h à 13h sur Europe 1 et avec Jade qui est avec nous en ligne, Pascal.
Exactement. Et avant d'être avec Yvonne Le Gauz qui représente l'UNI, avant de réécouter Sébastien Cheny et Sylvie Retailleau, Jade qui est donc étudiante à Sciences Po Paris, vous avez été impactée en premier lieu par ces mouvements de grève. Vous faisiez par exemple des cours dans le jardin.
En fait, on était en cours, enfin je devais avoir un cours à 17h et à 17h tous les campus de Sciences Po ont fermé, donc on savait très bien qu'on ne pouvait pas rattraper le cours plus tard parce qu'on a des examens qui arrivent. Donc avec l'enseignante et le reste de la classe, on avait pris la décision d'aller dans un jardin dans le 7e arrondissement pour pouvoir continuer le cours. Ouais.
Et ça c'est arrivé une fois ou plusieurs fois?
Non, ça c'est arrivé une fois, par contre que le campus ferme suite au blocage, non, c'est pas la première fois.
Donc vous avez manqué à peu près combien de cours depuis un mois?
J'ai de la chance parce que mes cours généralement ne tombent pas quand il y a les blocus, sauf là, donc là, pour moi, un seul.
Bon, écoutez, c'est un moindre mal, j'ose dire. Là, vous êtes où là en ce moment? Vous êtes à Sciences Po Paris?
Non, pas aujourd'hui.
On est en période de révision. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre, qu'il n'y avait pas de cours en ce moment. Donc là, vous êtes dans la période de révision parce que les examens sont programmés quand?
Moi, j'en avais un hier, par exemple. Donc ça
s'est bien passé
déjà,
Et vous avez passé quoi hier?
Droit de la concurrence.
Droit de la concurrence. Et vous avez envie d'être dans quelle filière?
Droit des sociétés, principalement, fusion-acquisition.
Bon, écoutez, bravo, hein, et puis ce témoignage est intéressant et je vous en remercie grandement. Merci Jade. On va écouter Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, il est député du RN et il était invité de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et sur Europe 1.
Ça fait des semaines qu'on a vu le braquage de LFI, que LFI a fait de Sciences Po. Braquage salué par les autorités religieuses iraniennes, les ayatollahs iraniens, trouvaient ça très bien. Vous me direz, entre ayatollahs de LFI et ayatollahs iraniens, on se comprend probablement.
De l'enseignement supérieur, Monsieur Cheny pointait sa responsabilité.
Le gouvernement, en tous les cas, Madame Retailleau, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, totalement disparue. Combien de temps il a fallu pour qu'elle se réveille? Enfin, je me rappelle que c'est cette ministre qui voulait démissionner pendant la proposition de loi sur l'immigration, qu'elle le fasse maintenant.
Quand le Premier ministre a dit on ne transigera pas, quand il avait été il y a quelques semaines à Sciences Po Paris, vous estimez que véritablement Gabriel Attal veut laisser voir proliférer ce genre de
manifestation? Mais ce sont des mots, ils sont incapables d'autorité. Quand vous voyez ce que la direction paillasson de Sciences Po a fait, c'est-à-dire pas de punition pour les bloqueurs, ils ont laissé finalement les choses se tenir, des tentes dans la cour de la Sorbonne qui était en train d'être montée, je crois, hier. Enfin, je veux dire, que ce soit la direction paillasson de Sciences Po ou que ce soit le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ce sont des gens qui ont peur.
Sylvie Retailleau, parlons-en. Elle est ministre de l'Enseignement supérieur et elle est pointée du doigt. Elle était ce matin sur France 2 vers une généralisation du mouvement. Écoutons-la.
Mais vous redoutez une généralisation du mouvement ou pas?
Alors, on est très, très vigilants.
Il y a
des appels, comme je vous le disais, il y a des appels, et malheureusement des appels qui sont relayés, instrumentalisés, et effectivement, c'est une minorité qu'on a dans ces établissements. À chaque fois, vous voyez, sur Sciences Po, c'est 15 000 étudiants. Mm-hmm. Allez, si on avait 80 étudiants au départ, il faut savoir que le soir, il en restait 14. Donc, on est vigilant. Et jeudi, j'ai invité l'ensemble des présidents d'université avec moi à discuter, parce qu'il faut être vigilant pour avoir cet équilibre entre l'expression, vous le disiez, c'est toujours délicat, et puis le non au blocage.
Et puis Sylvie Retailleau a précisé que l'État ne coupera pas ses subventions à Sciences Po. Bruno Retailleau, lui, est président du groupe Les Républicains. Il n'a évidemment aucun rapport avec Madame Sylvie Retailleau. Il était ce matin sur TF1.
C'est pas un chantage. Moi, j'applaudis. Je dis bravo Valérie. Elle a eu raison.
C'est pas de la com.
C'est pas de la com. Parce que Sciences Po, comme les universités, doivent rester des lieux de transmission. Et malheureusement, à Sciences Po, le laxisme a gagné. Jadis, on disait que Sciences Po était la fabrique des élites. C'est désormais, malheureusement, devenu la fabrique de la bêtise idéologique.
Et M. Retailleau, évidemment, réagissait à Valérie Pécresse qui a décidé de suspendre l'aide de la région à Sciences Po. Alors, Yvonne Lescauze est avec nous. Vous êtes délégué national du syndicat Étudiants Unis. Moi, ce qui me frappe toujours dans cette affaire, c'est que c'est une minorité d'étudiants. C'est-à-dire, c'est quelques étudiants à Sciences Po. Je crois qu'il y a 2000 étudiants sur le campus de Paris. Il y a 15 000 en tout. Et c'est moins de 200 personnes.
Mais Madame le ministre de l'Enseignement supérieur a même parlé de 80 personnes au début et 14 personnes à la fin. Mais ce qui est scandaleux, c'est de voir que seulement 14 personnes peuvent permettre que le gouvernement plie, peuvent permettre que Sciences Po plie. Parce que, faut le dire, quand Sciences Po se soumet, comme ça a été le cas, quand le gouvernement se soumet, finalement, c'est la France qui se soumet à une extrême minorité qui n'est pas seulement pro-palestinienne, qui est également pro-Hamas. Parce que j'étais sur place à Sciences Po Paris et j'ai entendu les chants et les slogans qui étaient chantés. C'était « From the river to the sea », donc qui est un slogan également repris par le Hamas qui demande tout simplement la disparition d'Israël, et d'autres slogans en soutien à la résistance palestinienne. Donc c'est d'autant plus un aveu d'échec pour Sylvie Retailleau d'admettre que 14 étudiants ont permis à Sciences Po Paris de plier.
Comment vous expliquez la réaction de la direction de Sciences Po ?
Mais c'est une réaction... Ils ont eu peur, ils sont terrifiés, ils savent qu'ils ont un ministère de l'enseignement supérieur qui ne va pas les soutenir. C'est toujours la même politique de pas de vague, parce qu'on a Gabriel Attal qui fait de grandes annonces à chaque fois en expliquant que la politique du pas de vague c'est fini. Mais en attendant, la politique du pas de vague, on peut le voir, elle continue. Et actuellement, parce que je pense que c'est important de le dire, on n'a pas que Sciences Po Paris qui est bloqué, parce que là, de toute façon, ils sont en période de révision. Mais on a de nombreuses IEP, de nombreuses Sciences Po qui sont bloquées à travers la France, à Rennes, à Menton, à Strasbourg, à Saint-Étienne, et ils sont tous bloqués parce que le ministère de l'enseignement supérieur a failli, et parce qu'ils savent qu'aujourd'hui ils peuvent bloquer un établissement et l'occuper sans même être sanctionnés.
Le rapport avec les autres étudiants, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de pressions qui sont faites sur les étudiants ?
Je peux vous donner un exemple même très précis. Quelques jours après notre action avec l'UNI pour la venue de Mélenchon, lundi dernier, à Sciences Po Paris, un de nos militants a été reconnu mercredi et il a été interdit d'entrer en certaines pièces de Sciences Po, notamment le patio où tout le monde se réunit, parce qu'on a reconnu qu'il était de droite et donc il était pointé comme fasciste, comme sioniste, et il a été interdit d'y pénétrer par des militants cagoulés antifascistes.
Et ça, c'est courant. Des militants cagoulés à l'intérieur de Sciences Po qui interdisent à un autre étudiant, mais c'est des étudiants ces gens-là ou c'est des militants de l'extérieur ?
Dans Sciences Po, ce sont des étudiants, et à l'extérieur, c'était des militants extérieurs.
Mais que fait la direction, par exemple, si cet étudiant, j'imagine, il est allé se plaindre ?
Alors, il est allé se plaindre, mais comme d'habitude, la direction n'agit pas. Donc le problème, c'est que malgré plusieurs plaintes, je vais donner un autre exemple même en dehors de Sciences Po, on a eu une assemblée générale hier qui a eu lieu à l'université de Grenoble, et un militant de l'UNI a voulu, donc sur la Palestine, un militant de l'UNI a voulu y assister. Mais juste y assister, il avait même pas un sweat uni, voilà. Il voulait y assister, il a été reconnu comme un militant de droite. Il a reçu un coup de poing au visage, et il a été jeté de l'amphithéâtre. Et j'ai écrit à la direction...
Il a porté plainte ?
Il a pas porté plainte pour des raisons personnelles, parce qu'il va avoir une carrière dans le public. Mais,
oui, mais il faut qu'il porte plainte, ce jeune homme, quand même. Mais s'il a pris un coup de poing,
il a pris un coup de poing au visage.
Il est blessé, j'imagine.
Disons qu'il a eu un peu mal, mais il n'y a rien de grave. Mais il n'y a rien de grave. Dans le geste, c'est grave.
Bah, évidemment que c'est grave.
Par contre, j'ai écrit directement à la direction de l'Université de Grenoble. Je n'ai toujours pas eu de retour. Et ça, c'est systématique.
Non, mais l'IEP de Grenoble, c'était un souci, semble-t-il. C'est là qu'il y avait ce fameux enseignant que j'avais reçu, d'ailleurs, qui avait été menacé il y a quelques années.
Justement, c'est bien d'y venir, parce que là, je parle de la présidence de l'Université de Grenoble. Mais l'IEP de Grenoble, c'est bien d'y venir, parce qu'on parlait de la suspension des subventions à Sciences Po Paris de Valérie Pécresse. Il faut savoir que je suis moi-même étudiant en Sciences Po Grenoble, et à Sciences Po Grenoble, ça a été fait par Laurent Wauquiez suite à l'affaire justement des deux professeurs qui avaient été menacés car apparemment islamophobes. Et ça a très bien marché, parce que pendant 2 ans, il n'y a pas eu de subvention pour Sciences Po Grenoble, et la direction a complètement changé son management, et aujourd'hui on a des étudiants, lorsqu'ils bloquent, qui sont sanctionnés et qui ont été renvoyés. Donc on voit bien que quand on coupe les subventions et quand on touche au porte-monnaie des établissements, quand on a touché au porte-monnaie de Sciences Po Grenoble, Sciences Po Grenoble a changé sa manière de gérer.
Bah écoutez, c'est ce que vous nous rapportez est évidemment sidérant, et puis puis il y a des gens qui ont envie de travailler. Moi, ce qui me frappe souvent, c'est que ces militants, ils ont compris que dans la vie, ils auront beaucoup de mal. Et ceux qui ont beaucoup de mal, parfois dans la vie, ils ont choisi une filière dans laquelle ils pourront s'exprimer, c'est le militantisme. C'est beaucoup plus difficile, évidemment, de faire carrière dans d'autres jobs que d'être un militant. Militant, c'est un peu plus facile. Et souvent, ce n'est pas les étudiants les plus brillants qui vous retrouvez en train d'empêcher de travailler les autres. Est-ce que je me trompe ou pas ?
Je ne dirais pas que vous vous trompiez, mais malheureusement, il y a aussi une forme d'élite, je dirais, très déconnectée, très parisienne, qui, justement, participe au blocage de Sciences Po. Mais ce que vous dites fait aussi partie des personnes qui le font. Mais je pense que c'est aussi important de revenir, par contre, sur la réaction de Sylvie Retailleau. Hier, j'étais en réunion avec elle, Sylvie Retailleau, et je lui ai parlé du sujet du militantisme pro-palestinien. Et malheureusement, elle a fui le sujet et elle n'a pas réussi à nous garantir que tous les militants seraient sanctionnés.
Voilà, parce qu'elle a peur. Alors vous-même, vous êtes un militant, mais vous êtes un militant pour contrer les militants, justement. Vous êtes un militant pour pouvoir bosser. Vous n'êtes pas un militant politique pour imposer des idées aux autres.
Et surtout, on respecte la loi.
Bon, Monsieur Lecause, merci, il est 11h59. Et nous revenons dans une seconde après les infos de midi.
A tout de suite sur Europe 1.
Ah merci, je croyais que...
Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. En 2000...